Bien, bonjour à tous. Je vais me faire la voix de l'ensemble des gens qui ont participé au comité d'organisation de cette journée pour vous souhaiter la bienvenue, vous accueillir et vous remercier d'avoir répondu présent à cette journée importante sur la question de la formation tout au long de la vie dans l'enseignement supérieur. Je vais d'abord commencer à donner la parole à Rachel-Marie Paradeil-Duval, qui est chef de service du service de la stratégie des formations et de la vie étudiante au sein de la DGCIP, et ensuite à Anne Aubert, qui est chef de projet du projet développement de formation tout au long de la vie dans le supérieur. Voilà. Merci.
Bien, bonjour à tous. Je suis ici pour représenter Simone Bonafous, qui n'a pu se libérer ce matin. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir pris le temps de venir réfléchir autour de ces questions. Et je pense que c'est aussi important de voir le spectre de la communauté qui est là. D'abord, je vois que vous connaissez bien, puisque la difficulté qu'on a à vous faire rentrer du café démontre que vous vous connaissez, vous échangez, vous avez déjà débuté les discussions qui vont nourrir toute la journée aujourd'hui. Alors finalement, vous accueillir aujourd'hui pour réfléchir aux évolutions de la FTLV, c'est se placer dans un contexte qui est finalement très fort et qui nous oblige à avoir... On a une obligation de résultat. Je ne vais pas vous rappeler le nombre de jeunes qui quittent le système de formation sans diplôme, sans qualification chaque année, un peu plus de 120 000. Tous les rapports qui expliquent l'évolution qui ne fait que s'accélérer, l'évolution des métiers, des technologies et tout ce que cela entraîne en termes de besoins en compétences nouvelles et de besoins en compétences de plus en plus élevés qui nécessairement nous interrogent sur notre capacité à accompagner ceux qui, volontairement, involontairement, vont avoir besoin de faire évoluer leurs compétences professionnelles et de se réorienter parfois de façon très très forte dans leur parcours. Cette première journée, donc il y en aura sans doute d'autres, se positionne sur des axes de réflexion qui sont extrêmement larges. Notre questionnement, et je dis bien notre questionnement, je sais que c'est le vôtre, mais c'est aussi celui de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Nos questionnements portent sur notre capacité à adapter nos dispositifs législatifs, réglementaires, mais aussi opérationnels, pour passer d'un système qui est extrêmement chronologique, quand même très, très français, très lié à notre culture de formation française, où on a une formation initiale, et puis brutalement, une interface qui nous fait rentrer dans le monde professionnel et où, après une ou plusieurs expériences professionnelles, on vient éventuellement avoir demandé une formation complémentaire. Notre objectif, quand même, c'est de réfléchir à notre capacité à rendre cette interface plus interface, avec une porosité entre notre formation initiale et la formation professionnelle continue. Du coup, une deuxième interrogation qui arrive, c'est comment les établissements d'enseignement supérieur peuvent trouver, ou j'aimerais dire retrouver, un positionnement qui soit à la hauteur de la place que l'on attend, avec les points que j'ai énoncés tout à l'heure, sur le marché de la formation professionnelle et plus largement sur l'ensemble des dispositifs de la FTLV pour répondre à la demande qui nous est faite par la société. Alors, je ne vais pas vous rappeler, vous qui êtes des professionnels de ce secteur-là, que dans vos établissements, la première mission de service public, c'est la mission de formation initiale et continue tout au long de la vie. Donc on est au cœur, j'allais dire, du métier. Ce n'est pas toujours comme ça que c'est vécu au quotidien, mais c'est quand même la première mission des établissements d'enseignement supérieur. Alors en préparant cette introduction, avec l'aide d'Anne Aubert, qui prendra la parole juste après, très facilement, sur ce champ-là, on a un peu la tentation de faire un constat défavorable ou au moins contrasté. Finalement, On pourrait se dire qu'avec des choses qui sont inscrites dans les textes, dans la loi, depuis plusieurs années, pourquoi est-il encore nécessaire de se poser la question de la réalité de ce qu'est la FTLV dans les établissements de l'enseignement supérieur ? Pourquoi faut-il encore discuter de la prise en compte dans les chiffres de la formation continue, de ce que représentent les établissements d'enseignement supérieur. Alors c'est vrai que quantitativement, le fameux 3% du chiffre d'affaires global à destination des établissements, de ces établissements, n'est clairement pas très favorable. Et pourtant, je pense qu'il faut être très attentif à, certes, faire évoluer ce pourcentage, mais aussi à se poser des questions qui sont peut-être plus qualitatives que quantitatives et qui cachent un bilan peut-être contrasté de la façon dont vous intervenez dans la FTLV. Alors, c'est clair, nous avons une offre de formation qui n'est pas lisible. Alors, c'est valable en formation initiale, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas pour le reste. Je sors d'une réunion où on a eu une discussion un peu vive sur ces questions-là. La façon dont nos activités sont organisées, la façon dont nos dispositifs sont mis en place, tout cela n'est pas toujours très clair pour le Quidam de base, que nous sommes parfois quand on sort de notre champ de compétences. Il en est de même pour l'accessibilité des formations. Indépendamment de ce qui existe, il y a aussi la capacité à comprendre comment on y arrive. L'enseignement supérieur, c'est un objet où on doit être bardé de diplômes pour pouvoir rentrer, y compris en formation, tout au long de la vie. Je pense que nous avons un vrai travail à faire, collectivement, pour lever ces a priori, sur ça comme sur le reste, sur les prérequis nécessaires pour les formations qui sont offertes dans vos établissements. Et ces a priori sont malheureusement nombreux. Au-delà de cette cartographie, à la fois sur ce que vous offrez et sur la façon dont on y accède. Et au passage, cette cartographie n'est pas toujours très, très facile à trouver. Elle n'est pas compréhensible, mais elle n'est pas toujours facile à trouver. Je pense que notre manque de performance vient aussi de la difficulté de maîtriser un certain nombre de points et donc d'accompagner ceux que nous allons former sur les questions de financement, d'organisation et du tempo des formations, mais aussi sur une pédagogie peu adaptée. Et à ce titre-là, voir dans vos rangs un certain nombre de personnes que je vois plutôt dans des réflexions autour de la pédagogie et de la rénovation pédagogique de l'enseignement supérieur, je trouve que c'est extrêmement positif, parce que ça veut dire que je pense qu'il y a aussi un cercle vertueux à mettre en place qui, en se posant des questions sur cette offre de formation à destination de public, de professionnels, aura nécessairement des conséquences sur la pédagogie pour tous les publics, qu'ils soient issus du milieu professionnel dans le cadre de la formation continue, mais aussi dans le cadre des publics diversifiés en formation initiale. Je pense que finalement, le premier travail et le premier constat que nous devons faire, c'est, est-on vraiment conscient de la quantité et de la qualité de l'offre de service que nous devons mettre en place autour des formations dans le cadre de la FTLV, et quelle est là et en quoi tout ce qui touche au soutien à ces formations est un signe de qualité, comme le font nos concurrents sur ce marché-là, avec des compétences adaptées et des compétences qui sont valorisées. Je pense aussi que dans ce constat que je vais qualifier de contrasté, pour ne pas utiliser le mot de défavorable, ce qui est le plus étonnant pour moi, c'est que nous avons une espèce de schizophrénie qui nous amène à être très réticents à utiliser, voire à exploiter, les liens que nous avons avec les entreprises par le biais de nos activités en dehors de la formation. Et en particulier dans les établissements d'enseignement supérieur où le lien formation et recherche, j'allais dire, est par essence, très souvent nous oublions que notre main côté recherche a des relations avec les entreprises, que notre main côté formation oublie totalement de mettre en synergie lorsque nous nous adressons à des publics de formation continue. Malgré tout, je pense que nous avons la capacité, dans nos établissements, à cultiver ces relations avec les milieux économiques et à les développer, comme certains d'entre vous le font déjà avec beaucoup de succès. L'objectif que nous devons avoir, c'est finalement d'accueillir des publics de plus en plus diversifiés. Ça veut dire aussi qu'il faut peut-être changer la façon dont nous comprenons les attentes en termes de réussite, les attentes en termes d'insertion sur le marché du travail ou d'évolution par rapport au marché du travail lorsqu'on est dans une réorientation professionnelle, voulue ou subie. Parmi les questions qui vont se poser et que nous devons nous poser, y compris concrètement dans le cadre des ateliers qui seront menés aujourd'hui, la question de la compréhension avec nos interlocuteurs des milieux socio-économiques, de l'évolution des métiers et de leurs besoins est une difficulté majeure. Elle est valable pour vous, mais elle est aussi valable pour l'ensemble des acteurs de la formation, formation du supérieur, mais aussi formation en infrabac. Et puis, il y a une question qui est peut-être plus difficile, hein, qui est finalement un côté un peu boule de cristal. Comment nous projeter pour accompagner l'ensemble des professionnels à comprendre l'innovation et à la mettre en œuvre dans leur métier, puisque c'est ce qui va nous permettre d'être compétitifs globalement. On voit bien que toutes ces questions-là nous amènent à repenser la FTLV dans un cadre qui est beaucoup plus large, avec une pression qui est beaucoup plus forte, mais avec un challenge qui est beaucoup plus intéressant. Donc, surtout, ne croyez pas que toutes ces questions que je trouve difficiles et que je partage avec vous me laissent pessimiste. Ça me donne envie de réussir avec vous. Et du coup, l'objectif aujourd'hui n'est pas de se limiter à ce constat, mais de se poser ensemble des questions qui sont liées à une réelle prise en compte et une prise de conscience collective de ce que doit représenter la formation tout au long de la vie dans notre activité de formation. Alors, finalement, aujourd'hui, nous allons nous placer dans un contexte qui a fortement évolué. Alors, notre devoir, au sens ministère du terme, c'est de faire évoluer le contexte dans lequel vous travaillez. On parle beaucoup de simplification, on parle beaucoup d'évolution et de contexte législatif qui, sur ce secteur-là, a beaucoup bougé sur les trois dernières années. Je crains, ou j'attends, que ça bouge encore sur les quelques mois qui viennent. Et j'espère que si ça bouge, ce sera favorablement pour votre secteur. Il s'agit ici de donner des leviers qui peuvent vous permettre de développer plus efficacement la FTLV, en particulier sur le fait que le numérique est un outil naturel et pas accessoire par rapport à la formation tout au long de la vie. On voit bien que les textes ne sont pas tous homogènes sur ces questions-là. Et je ne doute pas que vous en parlerez aujourd'hui. Et pour moi, le supérieur a déjà réfléchi à ces questions-là, à la fois sur la formation initiale, sur la mise en œuvre de pédagogies nouvelles, et c'est pour ça que je pense que ces réflexions-là sont totalement transverses. Et vraiment, il y a une vraie carte à jouer sur la qualité, et pas tant sur la quantité, sur les questions d'usage du numérique. Le contexte législatif nous permet aussi d'être à la table des grands, comme les autres, dans la gouvernance de la formation professionnelle continue. Certes, être présent dans le CNEFOP et autres CREFOP, avec tous les sigles qui vont avec, n'est pas toujours simple, mais le fait d'y être, c'est une reconnaissance que nous avons notre place à part entière, comme d'autres acteurs de la formation. À ce titre-là, tous ceux qui sont dans ces instances doivent se sentir porteurs non pas de la parole de leur établissement, mais de la parole de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, parce que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en place dans la culture commune de formation professionnelle continue. Toujours dans ce cadre favorable à faire évoluer, il y a un engagement à moyen terme sur une feuille de route autour de la FTLV qui a été mise en place par le ministère et qui a amené un certain nombre d'actions. D'abord, des diagnostics que je vais qualifier de réalistes et qui permettent de faire apparaître des propositions concrètes pour le gouvernement, pour le ministère et plus concrètement pour la DGCIP. Alors, je ne reviendrai pas sur le rapport d'il y a quelques mois maintenant de l'inspection générale qui avait beaucoup rencontré certains des acteurs qui sont présents dans cette salle, sur le rapport de François Germinet qui interviendra un peu plus tard dans la matinée, et plus largement sur les outils qui ont été mis en place, le dernier en date étant l'appel à manifestation d'intérêt sur le pilotage de la formation continue qui a permis de labelliser un certain nombre d'acteurs il y a quelques semaines, mi-janvier. Je profite de cette tribune pour vous dire que nous travaillons pour que cet appel à manifestation d'intérêt soit renouvelé en 2017 et puisse permettre à d'autres de bénéficier de des moyens qui ont été mis en œuvre et à disposition des labellisés dès 2016. Pour la DGCIP, l'objectif est donc de s'engager autour d'une feuille de route qui a maintenant presque un an, autour de sujets qui permettent de fédérer à la fois les équipes de la sous-direction des formations, mais aussi celles qui travaillent sur la pédagogie et le numérique et qui organisent ensemble cette journée. Donc, l'animation de cette question transverse de la FTLV a été confiée à Anne-Aubert depuis un peu plus d'un an, et un certain nombre de dossiers ont avancé, et vous en avez vu les réalisations. Avoir une foire aux questions qui permet d'expliciter les gouvernances de la formation professionnelle continue, et c'est peu de le dire, ça n'est pas toujours très simple. Avoir des foires aux questions autour de la réglementation, autour de l'inscription au répertoire national des certifications professionnelles, ça fait partie des outils concrets et dont l'objectif est de vous accompagner et vous simplifier. J'allais dire la vie quotidienne qui parfois, y compris à cause des réglementations qui ont été mises en place par le ministère, n'est pas toujours très simple. Par ailleurs, vous savez et vous avez participé aux travaux sur la réalisation de fiches RNCP nationales sur les licences générales d'une part et sur les travaux en cours sur les licences professionnelles, l'objectif étant petit à petit de traiter ainsi tous les diplômes nationaux qui leur donnent une visibilité en formation initiale mais aussi en formation continue professionnelle. Du coup, j'allais dire, l'organisation de ces premières journées, de cette première journée qui réunit les acteurs de la formation tout au long de la vie dans l'enseignement supérieur, c'est vraiment un point d'étape qui a vocation vraiment à se poser la question particulière du rôle du numérique et du développement du numérique au service de la formation tout au long de la vie. C'est organisé à la fois par la mission de la pédagogie et du numérique dans l'enseignement supérieur et par les acteurs de la formation continue, que ce soit ceux du ministère ou les réseaux d'acteurs de vos communautés. Et je pense que c'est une modalité qu'il va falloir répéter pour que nous travaillions de concert, chacun avec les moyens qui sont les siens. Nous ne sommes pas les opérateurs de terrain. Ça n'est pas nous qui mettons en œuvre les formations. Mais nous devons vous accompagner et vous donner un cadre qui soit favorable et qui vous enlève des verrous qui vous empêchent d'aller plus loin que ce que vous souhaiteriez au quotidien. Donc, je vous souhaite de travailler de façon très, très positive aujourd'hui. L'objectif, c'est de trouver et d'avoir des pistes concrètes qui sortent de ces premières rencontres et qui nous permettent de faire évoluer le cadre que nous vous proposons et que Anne-Aubert, qui vous connaît bien, accompagne et reste attentive à toutes vos demandes, même si, soyons aussi clairs, nous ne pouvons pas lever tous les verrous d'un coup, pour des tas de raisons, certaines parce que ça impose de passer par la loi, d'autres parce que nous ne sommes pas les seuls à avoir les clés de la formation professionnelle continue. Mais soyez certains que l'organisation de cette journée, c'est vraiment une façon de travailler pour améliorer votre cadre de travail et plus largement la façon dont l'enseignement supérieur intervient en formation tout au long de la vie. Et donc je laisse la parole à Anne qui, elle, va sans doute rentrer sur des choses beaucoup plus concrètes, mais c'est un domaine qu'elle connaît mieux aussi.
Merci Rachel Marie. Bonjour à tous. En fait, le concret, c'est surtout vous qui allez l'apporter. Hein. Moi, j'attends les idées et les suggestions. Déjà, je suis vraiment contente de voir toutes les personnes présentes dans cette assemblée. Et j'ai regardé très rapidement la composition du groupe. Et ce que j'ai trouvé vraiment, et Rachel Marie l'a dit, mais je tiens à le répéter ici, vraiment superbe, c'est que on a un mélange à la fois de gens qui sont intéressés par la pédagogie depuis de nombreuses années, des gens qui travaillent sur les outils en tant que tels, les outils numériques en tant que tels. On a des VP en charge du développement, de la formation, de la vie universitaire. On a des responsables de formation. On a des responsables de services formation continue, des conseillers de services formation continue. Et je me dis que si à nous tous, on n'arrive pas à faire un petit pas aujourd'hui, c'est que, voilà, c'est que ça ne devait pas se faire. Et ça, je peux pas le croire. Donc, je vais pas revenir sur l'importance de l'implication de nos établissements en termes de formation tout au long de la vie. Rachel Marie l'a très bien rappelé. Je pense que si vous êtes ici, c'est que vous en êtes tous convaincus. Donc, je vous rappellerai pas que l'AFTLV, c'est une obligation sociétale, c'est dans nos missions, c'est permettre la montée en compétences des actifs, c'est préparer les personnes à des reconversions professionnelles, c'est aussi accompagner le développement économique, parce que l'enseignement supérieur, c'est quand même là où il y a beaucoup d'innovation, donc qui dit FTLV dit aussi apport de l'innovation. Et puis, Rachel Marie l'a mentionné, c'est s'interroger sur nos pratiques en termes d'accompagnement, l'apprentissage formel, informel, de l'ensemble de nos publics. Donc, même si ici nous en sommes convaincus, il n'en reste pas moins que la FTLV, l'implication de nos établissements dans ce domaine, reste un challenge pour nos établissements, puisqu'il me semble que c'est quand même réinventer ou inventer un nouveau modèle d'université permettant donc la prise en compte de nos publics diversifiés, puisque nous avons des adultes, nous avons des adultes qui sont salariés, demandeurs d'emploi, qui sont dans d'autres situations, nous avons des publics étudiants qui ont des attentes différentes d'il y a quelques années, avec des statuts particuliers, et Rachel Marie l'a rappelé, nous avons aussi la problématique du décrochage qu'il faut prendre en compte, et la FTLV est peut-être une solution pour ces jeunes qui ont peut-être du mal à se positionner dans nos systèmes. Et puis, mais je pense que François le rappellera tout à l'heure, la FTLV, c'est aussi un moyen pour nos établissements de diversifier les ressources financières. Et ça, il faut aussi en être conscient lorsqu'on veut développer de nouveaux modèles pédagogiques. Si j'essaye de rester dans un contexte numérique, en fait, il faut qu'on change le logiciel. J'ai l'impression que c'est un changement de logiciel, logiciel qui devrait nous permettre donc de déployer de nouveaux outils permettant donc des parcours progressifs, de plus en plus individualisés, avec des alternances effectivement de périodes de formation, de périodes en activité professionnelle ou tout simplement de break aussi personnel, de temps personnel. Et le challenge, il est aussi de nous assurer que les personnes qui s'engagent dans ces parcours donc individualisés, le font de la façon la plus flexible possible, donc à nous de nous assurer aussi que les conditions environnementales de ces parcours sont assurées, mais également que ces parcours soient sécurisés. L'idée, c'est aussi de proposer des choses qui permettent aux gens de progresser sans se confronter de temps en temps à un mur qui pourrait les bloquer dans leur progression. Donc il faut adapter les parcours, les contenus, les temporalités, Il faut qu'on envisage effectivement différents rythmes d'apprentissage. On entend beaucoup synchrone, asynchrone, l'apprentissage hors temps de travail. Pendant les week-ends, certains pratiquent déjà pendant les vacances. Et l'apprentissage aussi qui pourrait se faire sur plusieurs années. Ce qui sous-entend aussi qu'il faut modifier non seulement nos approches en termes de pédagogie, mais également les outils qui permettent de suivre les apprenants. Et c'est là où le numérique prend toute sa valeur et va et doit représenter un outil essentiel de progression. Alors, j'ai essayé de lister, mais je pense que ça va ressortir de vos travaux, ce que le numérique pouvait apporter dans le domaine de la formation tout au long de la vie. Il me semble déjà qu'il devrait faciliter l'accès à la formation. Alors, à la fois par la connaissance des formations, l'explicitation de ces formations, par peut-être la facilité en termes de démarches administratives, recherche de financement et autres. Et puis, il va permettre d'apporter, a priori, de la souplesse, puisqu'il devrait gommer, ou en tout cas permettre de gommer, les distances, les contraintes temporelles et les contraintes professionnelles. Il faut se mettre à la place de personnes dans des situations particulières, des personnes salariées, des entreprises qui souhaitent et qui sont maintenant d'ailleurs dans l'obligation de former, non plus uniquement dans une obligation, on va dire, fiscale de le faire. Mais ça sous-entend aussi pour une entreprise de dégager du temps pour des employés dans un contexte économique qui, des fois, ne facilite pas toujours cette prise de temps. Donc, le numérique, en gommant les distances, les contraintes horaires et professionnelles, doit pouvoir faciliter l'accès à la formation, sans pour autant donc désorganiser les entreprises. Ça devrait aussi nous permettre de faire des parcours à la carte, donc véritablement de proposer une individualisation des parcours, et une fois encore, de les fluidifier au cours du temps. Et puis, ce numérique va nécessairement nous amener à modifier nos pratiques pédagogiques, à les adapter aux usages, au contexte. Et là, nous avons dans la salle des spécialistes qui vont pouvoir nous aider à identifier justement la façon de diversifier nos activités, de casser les rythmes d'enseignement et de permettre à chacun donc de progresser en fonction de ses aptitudes et de ses contraintes. Et puis, quelque part, le numérique, c'est aussi montrer au public qu'il n'y a pas qu'au niveau de la recherche que nous sommes à la pointe du progrès. Et je repensais l'autre jour, parce que j'ai vu des collègues, je suis désolée, il n'y a rien de plus terrible quand même d'arriver avec des transparents en cours. Et voilà, c'est par rapport au public, je pense qu'il y a des attentes qui sont différentes et s'appuyer sur des outils un petit peu dynamiques, numériques, ne peut que nous que montrer que nous sommes cohérents sur toute la ligne en termes donc d'innovation et de progrès et de recherche. Il faut qu'on a une chance là à saisir. On a une chance à saisir sur la FTLV. Et par rapport justement à l'utilisation des outils numériques, puisque nous sommes dans un contexte législatif qui nous permet de le faire. Il y a très peu de temps, il était impossible de faire financer des formations en non présentiel. La législation a évolué par rapport à ça. Il faut qu'on arrive à s'en saisir de cette chance-là. Alors il n'empêche, et Rachel Marie l'a rappelé, que il faut aussi avoir quelques points de vigilance. Le numérique, ça ne se décrète pas, ça s'accompagne, tout comme la FTLV. Donc il va falloir acculturer nos collègues. Ici, nous sommes tous convaincus, mais dans nos établissements, nous avons tous des exemples de collègues qui disent que ce n'est pas pour eux, ce n'est pas nécessaire. Donc il va falloir amener de la conduite de changement, il va falloir les former. Il va falloir former non seulement, je pense, les enseignants, mais également les apprenants. Parce que s'approprier un outil numérique, c'est tout aussi difficile pour la personne qui va devoir transformer ses cours, son enseignement, mais c'est également pas toujours évident pour les apprenants qui pensent maîtriser l'outil, mais qui ont des fois des difficultés en termes de gestion du temps. Donc il y a une conduite de changement qu'il va falloir mettre en place. Je pense qu'il est aussi nécessaire de toujours garder en tête que le numérique, c'est un outil et non une fin en soi. Et là, ça demande justement de bien travailler sur l'identification des publics, la typologie, les contraintes de ces publics, les outils, les vecteurs. Tout ça, ça prend du temps. Ça nécessite donc de la formation. Ça sous-entend aussi donc qu'il va falloir réfléchir à la reconnaissance de l'investissement des personnes et des enseignants. Et puis, moi, je pense toujours aussi, certes, à la pédagogie, à ce qu'on peut proposer à nos publics, mais également à ce qui est attendu des personnes qui vont financer, notamment les formations de ces publics. C'est-à-dire qu'il nous faudra toujours garder en tête les outils qui nous permettront de suivre la présence, l'assiduité des apprenants, qui nous permettront d'assurer la qualité de la certification. Et quand je pense certification, j'envisage certes l'évaluation de connaissances, mais surtout la certification de compétences acquises. Et puis, il faudra toujours aussi garder en tête le modèle économique des dispositifs que nous allons mettre en place. Donc, la journée est dense. Je pense que plus important que les discours, c'est les discussions et les échanges que vous allez pouvoir avoir, que nous allons pouvoir avoir ensemble. Donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup et puis encore merci de votre présence et d'avoir effectivement, parce qu'on sait que ce n'est pas toujours simple, dégagé le temps nécessaire pour qu'on puisse brainstormer ensemble et proposer des choses à l'ensemble de nos collègues.